Alors, c'est quoi le verset de l'année ? 1 Timothée 3, 15. Super. Ça va là. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Il y avait une autre étude que j'avais faite, c'est sur le mot « si je tarde », mais je ne parlerai pas de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais m'arrêter sur un mot, « sous-conduire ». Le même mot, donc en grec, c'est « anastrepho ». En d'autres traductions, vous allez trouver, c'est « aller ici et là, tourner en rond ». Mais j'aime bien en dire, donc « sous-conduire » et la même racine, c'est « être conduit ». On peut dire la même chose, comment se laisser, comment être conduit dans la maison de Dieu. On peut le mettre la même chose, il y a certaines traductions dans la parole qui disent ça. Et j'aime bien aussi ces traductions, c'est que oui, on peut par soi-même se dire, voilà comment je vais me conduire dans l'église. Mais en réalité, rappelez-vous, Jean 15, 5, sans moi vous ne pouvez rien faire, même pas se conduire d'une manière bonne, si on peut dire comme ça, dans l'Église. Par contre, on peut être conduit par Dieu pour se comporter de manière à le glorifier dans l'Église. 1 Corinthiens 10, 31, « Soit donc que vous mangez, soit que vous buvez, que tout ce que vous faites, faites pour la gloire de Dieu. » C'est-à-dire que se conduire dans l'Église, se conduire dans la maison de Dieu, c'est en d'autres termes, faites tout pour la gloire de Dieu. Et en fait, dans la Bible, ça a même plus de sens de se dire que voilà, je vais à l'église, je me laisse conduire. D'ailleurs, si vous vous rappelez la première fois que vous êtes entré dans une église, oui, vous vous êtes dit, ok, je vais aller dans cette église, mais on le dit souvent, c'est le Seigneur qui m'a conduit ici. C'est le Seigneur qui m'a attiré au salut. C'est le Seigneur qui a ouvert les yeux. C'est le Seigneur qui a fait le premier pas. Donc j'aime bien partir sur cette partie de cette définition. Le même mot, donc anastrepho, c'est être conduit. Et dans la Bible, je pense que c'est rempli, les textes bibliques, par certaines personnes qui se sont laissées conduire par Dieu et ils sont devenus des témoins. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que, en fait, ce que je vais parler ce soir, c'est. J'ai pris juste quelques exemples, mais en fait, en réalité, c'est toute notre vie. C'est tous les exemples qu'on peut rajouter derrière. Par exemple, je ne parlerai pas ce soir, mais être conduit par Dieu dans la bataille. Dans la bataille, David qui s'est laissé conduire par Dieu, Josué qui s'est laissé conduire par Dieu, etc. Et il y a eu des rois qui se sont confiés en l'Éternel. Être conduit dans la bataille, être conduit dans la maladie, être conduit la maladie, je pense à cette femme qui perdait de sang pendant tant d'années, elle a été conduite, elle s'est dit si seulement je peux toucher le vêtement de Jésus. Être conduit dans le deuil, être conduit dans pas mal de choses. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler donc de se laisser conduire d'une manière long terme. D'une manière pas juste, je me laisse conduire aujourd'hui et demain, je fais ce que je veux. Comme il y a certains chrétiens, malheureusement, qui disent, c'est beau, je suis sauvé, je suis sous le régime de la grâce ou dans la dispensation de la grâce, je fais ce que je veux. Ok, je me suis laissé conduire dans le salut, mais boum, je vis à la manière qui ne glorifie pas le Seigneur. Et un des exemples que j'aimerais parler, c'est Enoch. On sait que Enoch, on n'a pas grand-chose. Enoch, on voit ça dans Genèse chapitre 12. Pardon, ce n'est pas Genèse chapitre 12, c'est beaucoup plus tôt. Je n'ai même pas noté le verset, 3 ou 4. C'est au début. Au début. Donc Enoch, première chose, il marchait. Et en fait, il marchait avec Dieu, mais on va séparer les deux. Pour marcher, j'ai besoin de la foi. Pour la foi, j'ai besoin de la parole de Dieu. Et pour la parole de Dieu, j'ai besoin d'entendre sa voix. J'ai besoin d'entendre La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Sans la foi, je peux rester inactif. Sans la foi, je peux rester dans les ténèbres sans marcher. Sans la foi, je peux rester dans mon monde à moi, un peu comme les gens qui vivaient au temps d'Enoch. Ils vivaient en fonction de leur connaissance du bien et du mal. Mais Enoch, il a entendu la parole, forcément. La Bible n'en parle pas. Et il a décidé de marcher. Et ça, c'est un bon point pour nous. C'est que Dieu, par sa parole, a suscité en nous un cœur nouveau, Ézéchiel 28. Et par ce cœur nouveau, nous avons entendu les paroles de la vie éternelle, comme Pierre qui dit « À qui irons-nous, tu as les paroles de la vie ?» Bref, tout ça, ça a suscité en nous la foi. Et parce que ça a suscité en nous la foi, on marche. Ésaïe chapitre 40, le dernier verset. « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Lorsqu'ils marchent, ils ne se fatiguent pas. Lorsqu'ils courent, ils ne se fatiguent pas. Lorsqu'ils marchent, ils ne se lassent pas. » La foi, la parole que Dieu a mis en nous, ça a suscité la foi qui fait qu'on marche. Mais il a marché, Enoch, 5:24, merci. Il a marché avec Dieu. On peut marcher autant que traditionnellement des chrétiens sans marcher avec Dieu. Et lorsqu'on marche avec Dieu, il nous conduit de gloire en gloire, de victoire en victoire. Il nous conduit dans ce que lui, il a préparé d'avance. Il a marché 300 ans, puis il ne fait plus. Waouh ! On a beaucoup de choses à apprendre. Premièrement, il a marché parce qu'il a eu la foi. Bonsoir Christian. Deuxièmement, il a marché avec Dieu. Mais moi, il y a quelque chose de plus que j'aime bien dire, c'est qu'il a marché avec Dieu parce que Dieu a voulu. Dieu veut qu'on marche avec lui. Rappelez-vous les disciples d'Emmaüs quand ils étaient complètement attristés. Peut-être ne comprenaient pas la situation. Ils ont vu, ils ont espéré. Et tout d'un coup, leur espoir est tombé. Et Jésus a choisi de marcher avec. Donc Dieu veut qu'on marche avec lui. Et cela est possible à cause de la foi ou grâce à la parole. Vous allez voir qu'on reviendra toujours au même point. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, même pas marcher, même pas croire, même pas se convertir, tout ce que vous voulez mettre. Nous avons entendu, nous avons cru et on marche. C'est super, mais on marche avec Dieu. Les trois amis de Daniel, quand ils tenaient tête à, comment il s'appelle, sur Nebuchadnezzar, ils marchaient avec Dieu. Quand Daniel, ok, il y a eu un édit, il ne faut pas prier, ceci ou cela, il marchait avec son Dieu. Il a ouvert les fenêtres. Seigneur, je ne veux pas changer mes habitudes parce que certaines personnes me menacent. Seigneur, je ne veux pas changer mes habitudes ou je ne veux pas flancher dans mes convictions parce que le monde, le cosmos me dit, soyez comme ceci, faites ceci. Je veux marcher avec toi. Et pour marcher, pour avoir cette motivation, cet amour, ce lancement, j'ai besoin de la foi. Et pour la foi, j'ai besoin de la parole de Dieu. Mes brebis entendent ma voix et la connaissent. Je me dis, au temps d'Enoch, vous savez, l'être humain, il a toujours été très religieux, vu le nombre de religions qu'il peut avoir. C'est quand même dingue qu'Enoch, dans son temps à lui, il a se discerné parfaitement que c'est le seul Dieu qu'il a appelé. Waouh! Il avait une oreille très aiguisée, très fine. Mais cela lui a donné la capacité, la force de marcher avec Dieu. Et ça fait un témoignage pour ceux qui l'entouraient. Peut-être ceux qui l'entouraient ne pouvaient pas comprendre pourquoi tu as placé ta foi en un seul Dieu, alors que nous, on a peut-être comme les Athéniens, la déesse de l'amour, de blé, de ceci ou cela. Mais il a entendu la voix, il a reçu, il marchait. 300 ans, puis il ne fait plus. Nous, j'espère, dans un sens qu'on marche pas 300 ans, mais nous, c'est pareil. Nous avons entendu, nous avons reçu, on se lève et on marche. Une vie de marche. C'est fabuleux. Donc le Seigneur nous conduit sur la longue durée. Rappelez-vous, nous sommes en pèlerinage ici. Oui, l'apôtre Jacques, il est fort. Dans Jacques chapitre 4, nous sommes une vapeur. Oui, mais cette vapeur-là, il y a 70, 80, 90, 100 ans, il a marché avec Dieu. Le Seigneur l'a conduit. C'est juste fabuleux. Deuxième point, se laisser conduire dans la terre promise. Je vous ai dit, il y a tous les points qu'on peut mettre derrière, mais j'ai juste sélectionné quelques-uns. Alors évidemment, si je vous parle donc de la terre promise, vous allez me sortir Abraham. Et c'est vrai, Genèse chapitre 12, verset 1, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de ton père, dans le pays que je te montrerai. » On a exactement le même principe qu'Enoch. Il a entendu, il a cru, il s'est levé et il a marché. Mais là où c'est particulier avec Abraham, c'est que Dieu lui dit, je t'envoie là-bas, mais tu ne sais pas où. Tu n'as pas tous les détails, mais fais-moi confiance. Comme Enoch, fais-moi confiance. Peut-être que les gens vont s'opposer à toi, ce n'est pas grave, fais-moi confiance. Mais là, moi ce que j'ai compris aussi un peu dans ce verset, quitte en gros ton passé. Quitte ton histoire, quitte ce que tu connais, quitte les sentiers qui ils sont tellement durs que voilà, quitte tes habitudes, lève-toi et marche. Marche dans quelque chose que tu ne connais pas, dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose qui va te surpasser, dans quelque chose où tu verras ma grâce, dans quelque chose où tu verras que dans ta faiblesse, je montrerai ma force, dans ta pauvreté, je te rendrai riche, dans ta stérilité, je te rendrai fécond. Mais quitte ce que tu connais. Combien de chrétiens, de chrétiennes, je parle bien au peuple de Dieu, on ne parle pas de salut, ils sont sauvés, merci Seigneur, mais ils se limitent parce que d'une manière ou d'une autre, ne veut pas faire le pas de la foi. Ne veut pas dire, Seigneur, je te prends au sérieux. Seigneur, je décide d'ouvrir ta parole. Seigneur, je décide, je comprends peut-être pas tout, peut-être que mes mots vont me manquer, mais je décide d'obéir à la vision de l'Église, d'aller à Sion, témoigner, ou peut-être de prier pour mon ennemi. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu me demandes ça. Mais ce n'est pas grave, je veux renoncer à ce que je ne comprends pas, je veux renoncer à, peut-être à mes défauts, à tout ce qui est naturel, pour me saisir de ce qui est nouveau. Et lorsque nous décidons de quitter cela, comme je le disais tout à l'heure, nous marchons de gloire en gloire, pas de notre propre gloire. Rappelez-vous le verset que je disais, que tout ce que vous faites, faites pour la gloire de Dieu. Dans certaines traductions, ça nous parle que tout ce que vous faites, faites pour rencontrer Dieu. Et c'est bien aussi, parce que lorsqu'on désire pour rencontrer Dieu, on fera sa gloire. Par exemple, Seigneur, je veux te rencontrer dans la prière, ça va le glorifier. Seigneur, je veux te rencontrer dans l'église, dans ta parole, dans toutes les circonstances que vous voulez, ça va le glorifier. Parce qu'encore une fois, non pas moi, mais par Christ en moi. Mais là aussi, Abraham, il avait besoin d'être conduit. D'être conduit. Je prends par exemple le témoignage de Pasteur Tony et sa femme Isabelle. Le Seigneur nous a conduits pour aller à Baltimore. Oui, par nos propres forces, par nos propres moyens, par nos propres regards. La seule chose qu'on a envie, c'est certainement pas de faire ça. Mais le Seigneur a dit, quitte ton pays. Quitte tes parents, quitte ce à quoi tu t'accroches, peut-être quitte tes richesses dans lesquelles tu te confies, quitte ce qui est ancien, quitte ton passé, peut-être qui te condamne, ton passé qui te rappelle en disant « mais tu es rien », quitte, suis-moi. Et pour suivre, j'ai besoin, comme Enoch, d'entendre, de le recevoir et de marcher. En fait, elle est simple, la vie chrétienne. Elle est hyper simple. La seule chose, c'est nous qu'on se complique. Et dans ce passage, Abraham, c'était tellement simple qu'en fait, il a pris quand même Lot, son neveu. Mais heureusement que le plan de Dieu est bien plus grand. Parce qu'il a permis une situation où il fallait une séparation. Rappelez-vous avec les bergers de Lot et d'Abraham. Parce que nous sommes consacrés personnellement, seul à seul, devant notre Dieu. Dieu nous demande à chacun, chacune, quitte tout ce qui te condamne, tout ce qui te rabaisse, tout ce qui ne te donne pas une bonne identité. Quitte et concentre-toi sur moi. Marche avec moi. Je te montrerai des grandes choses, des nouvelles choses. Oui, ce qui nous aide, que ce soit pour Enoch, que ce soit pour Abraham, c'est quand même les promesses de Dieu qui sont oui, amen, de Corinthiens chapitre 1. Ça nous aide. Mais quand Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation, t'as pas oublié un truc, j'ai pas d'enfant. Seigneur, je ne pose même pas la question que j'ai pas d'enfant. Je décide de quitter pour marcher en nouveauté de vie, pour marcher dans la carrière qu'il nous est destinée. Je m'imagine l'apôtre Paul dans Actes chapitre 9, Seigneur Jésus, aïe, 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 je ne peux pas quitter. C'est mon historique. J'ai condamné des chrétiens, j'ai tué, j'ai permis que Étienne soit tué. Seigneur, je ne peux pas. Et pourtant, c'est ce qu'il a fait. C'est comme si le Seigneur disait, ce que tu as connu, quitte et suis-moi. Et on sait le témoin véritable qui est devenu. Abraham qui est devenu le père de la foi, le père d'une multitude. Mais voilà, ça c'est aussi un bon point. Le Seigneur nous conduit pour quitter ce qui peut, ce qui est néfaste dans notre vie. Mais encore une fois, ce n'est pas par nos propres forces. C'est le Seigneur qui ne prend pas la main, il dit, viens, je te montrerai un nouveau chemin. C'est fabuleux, hein? Je vous ai dit, c'est super simple la foi chrétienne. Entends, crois et marche. Ou vis. C'est pas mal, hein? Mais voilà, et Abraham, il est devenu un témoignage. Rappelez-vous quand il a menti par rapport à Abimélec, qui était païen, qui avait certainement son Dieu, etc. C'est qui a prié pour la guérison? C'est Abraham. Waouh, regardez, on parle encore aujourd'hui d'Abraham. De lui est sorti des rois, de lui est sorti la tribu d'Israël, de lui est sorti le Messie. Mais je pense aussi qu'Abraham, il s'accrochait à la promesse. Si la promesse est tarde, attends-la. Mais en attendant, quitte ce que tu as. Quitte, voilà, quitte. Mais je vais t'aider à quitter ton passé. Je vais t'aider à quitter ta culpabilité, ta condamnation, tes échecs, ta mauvaise identité. Je vais t'aider à la quitter. Et vous savez très bien que beaucoup de gens sont capables de beaucoup lorsqu'ils ont une mauvaise identité d'eux. Regardez, vous n'avez qu'à regarder des jeunes pour se conformer aux autres, ils sont capables de pire. Là, il y a eu une histoire il n'y a pas très longtemps en France de 3 personnes qui ont tué 2 jeunes. C'est juste atroce. C'est atroce. Parce que de beaucoup de choses ont mal. De pire. Bah, pour se conformer aux autres. Regardez, vous n'avez qu'à regarder les ados. Si on a un qui fume, oh là là, toi t'es pas grand, ceci ou cela, allez, prends une cigarette. Ils vont faire quoi? Ils ne veulent pas se sentir isolés, etc. Pourtant, Dieu nous dit, quitte. Mais je vais t'aider. Le Seigneur nous conduit. Un autre point. Le Seigneur nous conduit pour bâtir sa maison. Je répète, le Seigneur nous conduit pour bâtir sa maison. Rappelez-vous, les dernières fois, nous avons dit que nous sommes les pierres vivantes, que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que nous sommes la gloire. Le Christ est la gloire. L'Église est remplie par la gloire de Christ. Je crois que c'était ça. Mais plus que ça, en fait, bâtir une maison solide, c'est aussi pour protéger. Quand Dieu demande à Noé de bâtir l'arche, ce n'était pas juste 3 planches et 3 clous. Ça a pris pas mal d'années à la bâtir. Mais qu'est-ce que s'est passé dans l'arche? La vie a été préservée. Regardez, Genèse chapitre 6, verset 11. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Encore une fois, c'est toujours un mystère. Comment ça se fait que Noé, au milieu de toutes ces ténèbres qui l'entouraient, au milieu de tout ce mal, de toute cette violence, comment il a pu discerner cette voix en disant, regardez, Genèse, verset 14, 6, 14, « Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellule et tu l'enduras de peau dedans et dehors. » Noé certainement ne comprenait pas pourquoi il devait faire ça. Quelle foi pour construire. Ça a pris quand même presque 100 ans pour construire. Mais c'était solide. C'était solide à toutes les vagues. C'était solide aux flots qui se déversaient sur la terre. C'était solide et durable parce que ça a quand même resté des mois et des mois en train de flotter. J'aime ça. Et je vais faire ça en parallèle avec un autre verset que j'aime beaucoup. Matthieu chapitre 7, 24 et 25. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Waouh! Encore une fois, c'est lié à la parole de Dieu. Noé, il a entendu la voix de Dieu. Il a bâti quelque chose de solide. Il a été conduit pour bâtir cette arche qui a tenu, qui était, comme je disais tout à l'heure, elle faisait face à des flots, à des vagues, à tout ce qui va avec. C'est comme nous. C'est comme nous, si notre maison, si l'église que nous sommes, elle est fondée sur le fondement qui est Christ, le monde va se déchaîner. On l'a vu dans l'histoire et encore aujourd'hui. Les situations vont s'abattre sur l'église, sur les murs. Mais encore une fois, qu'est-ce qui fait les murs de l'église? Ce n'est pas ces 4 briques, tout ça. C'est encore une fois la parole, la colonne de la vérité. Le fait de croire Dieu, le fait que Dieu prend soin de son Église. Mais voilà, Dieu nous conduit à bâtir une Église solide pour nous protéger. Et il y a de quoi protéger l'Église. Tous ceux qui viennent dans l'Église, je ne parle pas de bâtiment, je parle vraiment Ecclésia, l'Assemblée. Tous ceux qui viennent dans l'Église d'une manière ou d'une autre, le fait qu'on entend la parole de Dieu, cela nous garde solide, fermement, de nos convictions. Et malgré le courant de ce monde, malgré le ballottement qu'ils vont à gauche, à droite, ceci ou cela, cela ne change pas. Nous sommes solidement ancrés. Et là aussi, il nous conduit dans ce sens-là. Regardez la situation dans laquelle le monde a traversé. Combien ils dépriment, combien peut-être qu'ils se, certainement, ils se suicident ou ils se droguent ou ils essayent de faire, peu importe. Mais si nous sommes dans l'Église, dans l'assemblée des frères, des sœurs, et la parole de Dieu est élevée, cela nous bâtit, cela nous enracine dans le rocher qui est Christ. C'est vrai, dans un sens, c'est même pas dans un sens, c'est vrai, c'est Christ qui ajoute à son Église des âmes, c'est lui qui bâtit, mais le fait que nous sommes une unité dans le corps, cela devient inébranlable, solide contre tout. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont critiquer l'Église. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se moquer de l'Église. Peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas la prendre au sérieux. Peut-être qu'il y a même des églises qui sont brûlées. Malheureusement, c'est le bâtiment. Mais ça ne change pas nos convictions. Et là aussi, Dieu nous conduit à bâtir notre vie sur le rocher. Dieu nous conduit à travers sa parole à avoir des convictions solides à toute épreuve. Mais là aussi, ça vient de lui. C'est la foi, c'est la parole de Dieu qui crée en nous la foi, qui nous aide à marcher avec des convictions. On sait parfaitement qu'aujourd'hui, la société déteste les gens qui ont des convictions. Pourquoi? Parce qu'ils sont solides contre tout. Rappelez-vous le verset Romains 12, 2, hein, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans vos pensées. » comment c'est possible lorsque j'ai des convictions solides. Aujourd'hui, beaucoup de gens vous disent, ah, vous êtes intolérant, vous parlez de péché, vous parlez contre ceci ou cela. Non, on ne parle pas contre ceci ou cela. On ne bouge pas les bornes que Dieu a mis. Dieu a dit ça, on garde. Point. Jésus, il a dit quoi dans Matthieu 4:4, Luc 4:4 ? Il est écrit. Ok, tu viens me tenter, transformer de pain, ceci ou cela. Ok, il est écrit. Aujourd'hui, dans la société, ah, mais vous n'acceptez pas ceci ou cela. Non. Pourquoi ? Parce qu'il est écrit. Ah, mais la Bible n'est pas fou. Peu importe. Il est écrit que le Seigneur prendra soin de sa parole. Il est écrit que le Seigneur est la parole, Jean chapitre 1, verset 1. Bâtir à toute épreuve. Et pour la suite de ce verset, dans 26 et 27 de Matthieu 7, ceux qui entendent la parole sans la vivre, sans la connaître, c'est juste catastrophique. La moindre tempête qui arrive, tout est perdu. Je me suis posé la question, vous savez, j'ai vu le dernier film de Luc avec Marion, où il y avait des chrétiens que, pour le plaisir du monde, ils étaient amenés dans les arènes où il y avait les lions, tout ça. Qu'est-ce qui pouvait les conduire là ? C'est certainement pas les idées du monde, c'est leur conviction en Christ. Vous savez, il y a cette association chrétien persécuté dans le monde. Comment elle s'appelle déjà cette association ? Je ne me souviens plus. Martyrs. Martyrs, oui. Tous ces chrétiens qui sont martyrs, parce qu'ils ne bougent pas de leur conviction. L'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, nous pouvons être, on n'est peut-être pas persécutés physiquement, mais psychiquement, nous sommes attaqués de toutes parts. Vous n'avez qu'à sortir dehors. Regardez les publicités qui sont sous les panneaux à côté. Mais si on ne bouge pas, on reste ferme dans nos convictions, aïe, ça va être génial. Et c'est ça que je cherche. Des gens qui ne changent pas tout le temps d'avis. Daniel, malgré l'opposition, malgré qu'il était dans une terre inconnue, avec une autorité qui ne craignait pas le Seigneur, il ne bougeait pas dans ses convictions. Hein. Joseph, quand il était esclave, que ce soit dans le puits, esclave, en prison, et même le second du roi, de Pharaon, il n'a pas bougé ses convictions. Il n'a pas bougé. Pourquoi ? Parce qu'il faisait tout pour rencontrer le Seigneur. Comment c'est possible ? J'entends. La foi vient de ce qu'on entend. J'entends. Je la reçois. Je la crois. Elle est imputée. Et je peux vivre. Et comme les trois amis de Daniel disent, ô roi, ton truc là, au bout de métal là, ça ne m'intéresse pas. Même si je perds ma vie, je ne bougerai pas de mes convictions. Parce que mon Dieu, premièrement, il peut me délivrer. Deuxièmement, même s'il ne le fait pas, j'aime trop mon Dieu pour le déshonorer. Je veux continuer à le glorifier. Et on peut mettre ça dans tous les domaines de notre vie. Que ce soit dans la maladie. On sait très bien que dans la maladie, notre corps, il souffre. Mais vraiment, il souffre d'une telle manière que des fois, c'est les gens qui te disent, comme Job chapitre 2, la femme de Job, il disait, mais maudit Dieu, elle meurt. Job, il a dit, mais tu parles en insensé, tu parles sans conviction, tu parles sans connaissance. Et au verset, au chapitre 19, il dit quoi ? Mais je sais que mon rédempteur est vivant. Point. Quand il y a la lamentation de Jérémie, tout ce qu'il voit, ça le désole tellement. À tes souhaits. Mais qu'est-ce qu'il dit Jérémie ? Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. C'est la parole. C'est des convictions. Tout est détruit ? Oui. Mais j'ai la conviction que Dieu sait exactement ce qu'il fait. Dieu est en contrôle sur toute chose. Dieu était en contrôle quand Jésus était en train de se faire clouer à la croix. Parce qu'il y avait un autre regard. Mais voilà, on peut le mettre dans le deuil. Dieu nous conduit dans le deuil. Parce que dans le deuil, ça nous a brisé, ça nous a... Peut-être ça nous a même, comment dirais-je, atténué le regard qu'on avait sur Dieu. Mais là aussi, il nous conduit. Rappelez-vous cette femme qui pleurait, son seul fils unique. Et Jésus a touché son cercueil et paf. Parce que, voilà, Dieu nous conduit en toutes choses. Mais pour nous conduire en toutes choses, que ce soit eux, que ce soit Gédéon, que ce soit peu importe qui vous les mette derrière, ils ont entendu parler, ils l'ont reçu et ils ont marché. C'est ça la vie chrétienne. Extrêmement simple. J'entends, je le crois, je le vis, je l'expérimente et je marche. Et c'est pour ça qu'on peut marcher en nouveauté de vie. Et c'est pour ça qu'il y a certaines situations qui nous dépassent, mais notre joie, elle est toujours là. Je prends quelqu'un comme l'apôtre Jean, quand il était sur l'île de Patmos, ça ne devait pas être tout le temps la rose. Mais je suis persuadé que son cœur était rempli de joie. Si vous regardez, on l'appelle l'apôtre de l'amour. Quand on parle de l'amour de Dieu, ça remplit notre cœur. C'est fabuleux, non? Je prends quelqu'un comme Timothée. C'est un jeune pasteur. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est un jeune pasteur. Il était timide, oui. Mais comme Abraham, quitte cette chose, lève-toi et marche. C'est simple. Mais maintenant, revenons à ce verset clé que nous avons dit, le premier verset, toujours dans Timothée, 1 Timothée 3,15. Comment il faut se, j'ai envie de dire, comment il faut se laisser conduire par Dieu dans l'Église. Il y a des églises, oh, on en a vu avec Marion quand on était au Brésil. Comment dirais-je? Elle ballottait d'une doctrine à une autre pour parler d'autres choses. Mais je veux dire par là, c'est que est-ce qu'il y avait la vie? Est-ce qu'il y avait des cœurs métamorphosés, transformés? J'en doute fort. Tout simplement parce que la parole n'était pas prêchée. C'est aussi simple. Mais nous, comment on peut se comporter d'une manière qui glorifie le Seigneur? Entendons la parole, croyons-la et marchons. L'église de Corinthe, je pense qu'à un moment donné, ils ont loupé une coche. Ils ont entendu la parole via l'apôtre Paul, mais ils ont oublié. Ou peut-être qu'ils ont essayé de mélanger ça avec leur passé. C'est pour ça que j'aime ce verset que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 5,17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Lâche les choses. Peut-être que l'église de Galate, oui, ils ont entendu la parole. Peut-être qu'ils l'ont reçue avec joie. Mais la première difficulté, non, je ne veux pas porter de fruits. Ça me fait penser à la parabole de Sommer. Heureusement qu'il y a aussi des bonnes églises. Je prends l'église de Thessaloniciens, je prends d'autres. Je prends aussi l'église de Laodicée. Si l'église de Laodicée est devenue ce qu'on appelle tiède, elle a entendu. Peut-être qu'elle a cru pour un certain temps, mais ils ont oublié de marcher. Ils ont oublié de marcher. Et ça, c'est dommage. Parce que lorsqu'on arrête de marcher, on tourne en rond dans notre vie. On se concentre sur nous-mêmes. On est comme dans un désert sans voir le bout. Je sais que le peuple d'Israël a marché dans le désert, ils ont tourné en rond parce que il n'y avait pas la foi. Il n'y avait pas la foi. Dieu, encore une fois, il était en contrôle puisqu'il les conduisait avec la nuée. Il leur donnait à manger au quotidien. Mais ils n'avaient pas la foi. Ils ont entendu les paroles sur cette montagne. Mais ils n'avaient pas la foi pour croire. Mais encore une fois, une petite minorité a fait la différence. Josué et Caleb. Ils ont entendu, ils ont marché avec persévérance et ils ont eu la victoire. Non, c'est ça. Comme Enoch, 300 ans, parce qu'il serrait la parole de Dieu dans son cœur. Abraham, il serrait les promesses dans son cœur. Paul, il avait le désir, mais comme il disait, je désire d'aller auprès du Seigneur. C'est ça mon cœur. Et un dernier point que j'aimerais dire, c'est que le Seigneur nous conduit jusqu'à l'éternité. Jusqu'à l'éternité, c'est une promesse. c'est lui qui ne prend pas la main. Comme je disais tout à l'heure dans Jacques chapitre 4, notre vie est une vapeur sous cette terre. Mais sous cette terre, dans cette vapeur, nous avons rencontré l'éternité. Nous avons rencontré la vie éternelle parce que nous avons placé notre foi dans celui qui est la vie, Jésus-Christ. Le Seigneur nous conduit jusqu'à dans l'éternité. Comme il dit, je n'ai pas noté le verset, mais ce n'est pas grave. Comme il dit, dans ma maison, il y a beaucoup de demeures. Je vous prépare une place. Et si nous gardons cela dans notre cœur, cela nous garde un cœur en feu. Cela nous garde un amour pour notre Sauveur, pour notre Dieu. Je sais que, en tout cas pour ma vie, on ne réalise pas pleinement de quoi Dieu nous a sauvés. Je ne pense pas qu'on réalise, parce qu'il n'y a pas des mots exacts que tu peux poser de quoi Dieu m'a sauvé. On peut dire, oui, sur cette terre, il me sauve, de quoi je suis capable. Mais je pense par rapport à l'enfer, beaucoup de gens prennent ça de la rigolade, mais vivre loin de Dieu, on ne sait pas ce que ça veut dire. Même quand nous étions ennemis de Dieu, on n'a jamais vécu loin de Dieu. C'est fabuleux. Donc je ne sais pas ce que c'est. Mais je pense que quand on arrive au ciel, je dis, waouh Seigneur, je n'ai même pas réalisé de quoi tu m'as sauvé, mais je te suis reconnaissant. Je suis tellement reconnaissant que quelqu'un, un homme, une femme, m'a parlé de toi. Je l'ai cru dans mon cœur. Tu as circoncis mon cœur. Tu as changé mon cœur. Tu m'as donné un cœur de chair pour que je puisse marcher un peu de temps pour te glorifier, pour devenir un témoin véritable, pour devenir la lumière, pour devenir le sel. Vous n'avez jamais posé la question, comment ça se fait que dans certaines relations, d'une manière ou d'une autre, c'est nous qu'on amène le sel, on donne du goût à la vie, à des gens qui traversent des choses extrêmement difficiles, parce que le Seigneur est en nous, parce que c'est le Seigneur qui fait toutes choses. Mais voilà, le Seigneur nous conduit jusqu'à dans l'éternité. C'est fabuleux. Et c'est pour ça que nous n'avons pas besoin de craindre la mort. On n'est pas des suicidaires. Oui, c'est vrai. Mais nous n'avons pas besoin de craindre la mort. Parce que le Seigneur va nous conduire jusqu'à dans l'éternité. Lorsque le bruit des guerres, on entend des famines, des pestes et toutes ces choses-là, nous n'avons pas besoin de craindre. Parce que le Seigneur a fait la promesse qui nous précède. Rappelez-vous cette encre solide qui est au ciel. Parce que ici, il donne toujours cette image que c'est comme à l'époque des gros bateaux, avant qu'il y ait tous ces sonars, toutes ces choses-là, pour amener l'encre dans le port, on mettait dans une petite barque l'encre. Et comme la petite barque n'avait pas un fond profond, ben on mettait l'arche et on allait jusqu'au rivage. Et là, on l'a jetée. Et le bateau, en fait, avec des gros manivelles, on amenait le gros bateau en toute sécurité vers le port. Ben nous, c'est ça. L'ancre solide, c'est Christ qui l'a déjà posé au ciel. Aujourd'hui, nous sommes dans cette barque. Oui, ça tangue des deux côtés. Il n'y a pas encore tous les stabilisateurs. Robert, il connaît ça parce qu'on a fait des bateaux ensemble. Mais je veux dire, voilà, on est dans la bonne direction. Il nous conduit jusqu'à dans sa maison. Où on sera juste, waouh, émerveillé. C'est ça notre plus grande espérance. C'est ça notre plus grand cadeau que nous avons reçu. Et cela doit nous motiver pour partager la foi à notre, autour de nous. Il y a des gens qui sont perdus, mais ils ont besoin de ça, d'entendre. Et parce qu'ils vont entendre, Dieu va changer leur cœur. Ils vont le recevoir et ils vont se lever. Et marcher. C'est simple. C'est le désir que nous avons, c'est les prières que nous avons pour nos familles. Voilà, ils ont vu des vies transformées. Aujourd'hui, peut-être quelque chose les retient. Mais continuons à témoigner, parce que nous sommes devenus des témoins, comme Enoch, comme Noé était un témoin, dans le cas de Noé, un témoin de jugement qui est venu, comme Abraham était un témoin, comme Joseph était un témoin, comme Paul était un témoin, comme nous sommes des témoins. Nous sommes des témoins. que tout ce que vous faites, faites pour la gloire de Dieu, pour rencontrer. Mais encore une fois, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. C'est lui qui le fait. Donc, ce verset dans 1 Timothée 3,15, pour garder ses colonnes, cette vérité, c'est lui qui va le faire. À travers nous. À travers nous. C'est fabuleux, hein? Mais voilà, ça, on peut le mettre dans tous les domaines de notre vie. Mais c'est ce que Dieu cherche. Un cœur qui se laisse guider. Quand David, il a été... Quand David il a massacré Goliath, c'est parce qu'au départ, il s'est laissé conduire par Dieu. Quand il gardait ses brebis, son père il dit, va amener de la nourriture à tes frères. Ok. Il ne savait pas ce qu'il attendait. Je ne pense pas qu'il s'est dit le matin, oh là là, aujourd'hui je vais terrasser l'ennemi d'Israël. Il a juste marché, il a juste continué à obéir à son père. Mais quelle victoire pour Israël. Quel témoignage de la puissance de Dieu. Parce que le Seigneur se glorifie dans les petites choses. David était méprisé aux yeux de Goliath. Parce que Goliath n'avait pas le bon regard. Mais David, ce n'est pas lui qui se considérait. Il avait le regard, mais sur celui qui donnait la victoire. Les trois amis de Daniel avaient le regard sur celui qui pouvait le sauver. Daniel, il avait le regard sur celui qui pouvait fermer la bouche des lions. Nous, c'est pareil. Gardons notre regard sur Christ. Qui est, comment il est ce verset? Qui est le, vas-y, l'auteur et la, le consommateur de notre foi. Waouh! L'auteur et le consommateur. L'auteur, la foi vient de ce qu'on entend. Le consommateur, lui en nous. Waouh! Que dire de plus? Merci Seigneur pour qui tu es. C'est tout simplement ça. On va conclure ici, mais gardons ça dans notre cœur. Christ est la clé. Sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui, on ne peut même pas croire. Sans lui, on ne peut même pas marcher. Christ est l'auteur et le consommateur de notre foi. Et notre foi, c'est la victoire sur ce monde. Que dire de plus? Que dire de plus? Je suis rejeté de cette société, ce n'est pas grave. Christ est l'auteur et le consommateur de ma foi. Aussi simple que ça. C'est fabuleux, hein? On va conclure ici, je ne vais pas faire plus long. Mais voilà, gardons cela dans notre cœur, c'est lui qui nous conduit. Et c'est bon de se dire que c'est lui qui nous conduit. Lorsque je tombe, c'est lui qui me relève. Lorsque je suis faible, c'est lui qui me donne la force. Lorsque je suis malade, c'est lui qui me guérit. Lorsque je suis abattu, c'est lui qui me redonne de la force. C'est ce que s'est passé avec Élie. C'est ce que s'est passé avec l'officier syrien qui vient voir Élisée. C'est lui qui a guéri cette femme qui avait des pertes de sang. C'est lui qui a suscité la foi dans le cœur de Marie qui a choisi la bonne part. C'est lui. C'est lui qui nous conduit. Et quel repos. Prenez mon joug qui est doux et léger. Pourquoi? Parce que c'est lui qui le porte. Si on veut garder les choses que Dieu nous a confiées, réalisons que c'est lui qui va le faire à travers nous. Et c'est pour ça que nous n'avons pas besoin de forcer de toutes nos forces. On vient dans l'église, on va essayer de soutenir le toit, la vérité. Non, non. C'est lui qui va le faire. Et si c'est lui qui va le faire, on est tout léger. Et ça laisse la place à quoi? Puisque c'est lui qui porte. En disant, Seigneur, à toi seul soit la gloire. Seigneur, rien que toi. Quand on chaude, rien que le nom de Jésus dans ma vie. C'est lui qui fait. Amen. J'espère que ça a vraiment touché parce que moi, ça m'a donné un feu Mais j'aime ça, de se dire que c'est lui qui fait tout. Alors oui, on a cette image qu'on entend souvent que, quand un papa fait avec, ou une maman, fait un trou avec une perceuse et puis que l'enfant tient la perceuse, l'enfant dit « ouais, c'est moi qui l'ai fait ». Non, non, c'est le père. Mais le père prend ce plaisir. Ou quand il y a, je parle ça, les mamans avec la cuisine, ou avec peu importe ce qu'on veut mettre. Mais c'est lui qui le fait. On a un cœur léger parce que, waouh, Seigneur, merci. Des fois, oui, notre orgueil peut se dire, waouh, Seigneur, tu as fait beaucoup de choses. Oh, tu m'as donné beaucoup de capacités pour que je puisse faire ceci ou cela. Non, non, non. C'est lui qui fait. Rappelez-vous ce que Moïse disait, qu'il avait un cœur humble. Seigneur, si tu ne conduis pas ce peuple, ce n'est pas moi qui peux le faire. C'est hors de question. C'est lui qui le fait. C'est lui qui bâtit l'église solide à toute épreuve. Et regardez l'histoire de l'église. Il y en a eu des tempêtes sur l'église. Parce que l'ennemi veut détruire. Mais réjouissons-nous parce que c'est lui qui bâtit à travers nous. C'est lui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Mais mettez ça dans tous les sujets. Il nous conduit dans la prière. Il nous conduit même dans la lecture de la parole. Il nous conduit, il nous donne une sagesse. Tout d'un coup, je dis, waouh, Seigneur, je n'avais jamais vu ça. C'est lui qui nous conduit. Je vais vous laisser digérer ça, mais waouh, quelle joie immense. Et quelle reconnaissance. Je pense à David qui disait, mon âme compte les bienfaits de l'Éternel. Mon âme compte toutes les fois où le Seigneur t'a conduit. Quand tu as les hommes qui voulaient te lapider parce qu'ils ont perdu de grandes choses, tu t'es confié en l'Éternel. Dieu a amené pour la victoire. C'est lui qui l'a fait. Quand Abraham il a eu la victoire, quand Lot il s'est fait enlever, waouh, Seigneur, c'est toi qui l'as fait. Et non seulement c'est toi qui l'as fait, mais tu m'as donné de grandes richesses. Alors je voulais donner au roi de Salem. Mathusalem. Roi de Salem, comment il s'appelle? Melchisedec. Tu m'as tellement donné, Seigneur, que je veux en donner. Tout ce que j'ai vient de toi. Tout vient de lui, par lui, pour lui. Amen.